Over the green, 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 washing. Lundi 20 mars, le GIEC sortait son 6e rapport sur l'évolution du climat. Il soulignait notamment le rôle essentiel des médias sur cette thématique. Jeudi 23 mars, le Club de la Presse organisait une rencontre sur le traitement des enjeux environnementaux dans les médias. Face aux dérèglements climatiques et aux catastrophes écologiques de plus en plus fréquentes, certains scientifiques se mobilisent, tout comme une part importante de la population mondiale. Qu'en est-il des médias? Minimisent-ils la situation? Mettent-ils en avant les solutions? Nous avons assisté à cette rencontre en présence d'Anne-Henri Castelbou, journaliste à Radio RCF et correspondante du JNE, journaliste écrivain pour la nature et l'écologie. Il y avait aussi Samuel Duhamel, journaliste chef de bureau M6 à Lille, Lou Esparguière, rédacteur en chef du média Vert, et Isabelle Matikowski, directrice générale adjointe de l'agence de l'eau Artois Picardie. Nous avons notamment échangé avec Lou Esparguière. Avec son média Vert, il porte le vivant et le climat à la une tous les jours et met en lumière celles et ceux qui s'engagent pour l'écologie. Le média est également à l'origine de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique.
En fait, on a listé tout ce qui nous semblait dysfonctionner dans le traitement médiatique de tous les sujets liés à l'écologie. Alors quand on parle d'écologie, c'est pas juste les petits oiseaux et l'eau. Tous les sujets liés à l'économie en fait sont profondément liés à l'écologie d'une manière ou d'une autre. L'énergie, c'est de l'écologie. La géopolitique, c'est souvent de l'écologie. Et donc en fait, améliorer le traitement médiatique de tous les sujets à l'aune de l'urgence écologique, ça implique de repenser notre façon de traiter absolument tous les sujets en fait. Et donc on a regardé ce qui marchait pas et on s'est dit qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui nous semble être des pratiques plus saines, plus intéressantes, qui permettraient au grand public, enfin au public au sens large, de mieux comprendre ce qui se passe et de mieux comprendre ce qu'il est en capacité de faire ensuite pour agir face à la crise climatique. Aujourd'hui, il y a seulement 6 Français sur 10 qui savent, parce que c'est pas qu'ils croient ou qu'ils pensent qui savent que le climat s'est réchauffé et que c'est à cause de nos activités, des activités humaines. Or, le GIEC vient de clore son 6e cycle, ça fait 30 ans qu'il rend des rapports et ça fait 30 ans que le consensus scientifique s'affine pour dire qu'il y a bien un changement climatique et il est sans équivoque d'origine humaine à 99,9%. Donc nous, on s'est dit qu'il fallait améliorer la pédagogie, très clairement. Il fallait être capable de traiter tous les sujets de manière transversale. On s'est dit que c'était important aussi de révéler le greenwashing. Alors on l'a pas appelé comme ça dans le texte pour que ça périme pas trop vite, parce que c'est un terme qui est un peu à la mode. Mais le greenwashing, aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de climato-scepticisme. C'est créer une réalité parallèle. On fait croire que les choses sont plus vertueuses qu'elles le sont. Et en fait, ce que ça crée à la fin, c'est que les gens n'agissent pas. Alors le grave problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens n'agissent pas. Quand je dis les gens, c'est tout le monde. Mais aussi, c'est extrêmement important de continuer à se former en continu. Systématiquement tout au long de sa carrière, et moi-même je continue à le faire, et d'informer sur les réponses à la crise, pour ne pas dire les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire à toutes les échelles.
Selon toi, pourquoi les médias parlent peu d'écologie?
Alors il y a beaucoup de médias, et c'est un mauvais calcul, qui pensent que l'écologie c'est pas vendeur, et qui voient par exemple quand ils ont un journal télévisé, que dès qu'ils font un sujet sur le climat, ils voient que les téléspectateurs par exemple s'en vont. Le problème c'est que si on parle systématiquement de climat à la télévision en montrant des ours polaires ou quand il y a un incendie, en fait oui c'est très chiant, moi aussi en tant que spectateur j'ai envie de zapper, et c'est en fait parce que beaucoup de médias parlent mal d'écologie qu'ils ont l'impression que en fait, ça n'intéresse pas le public. Or aujourd'hui l'écologie c'est une des préoccupations majeure des Français, mais aussi en fait de la plupart des habitants de la plupart des pays. Et il y a beaucoup de médias qui l'ont pas encore compris parce qu'ils l'ont pas encore mesuré. Il y a plein de sujets qui sont liés à la délinquance ou des choses comme ça qui sont encore aujourd'hui plus vendeurs. Mais ce qu'il faut, c'est que le public soit acculturé à ces sujets sur l'écologie et que les médias changent leur manière d'en parler aussi pour que ça devienne intéressant et vendeur aussi pour le public.
Et pour les médias qui en parlent, est-ce qu'ils minimisent les choses? Est-ce qu'ils complexifient les choses? Et résultat, nous, ça nous touche moins ou on est moins intéressés?
Pour moi, le premier problème, c'est que les journalistes ne sont pas assez formés à tous ces sujets. L'écologie, le climat, la biodiversité, c'est des sujets hyper compliqués. Et si on ne prend pas le temps de se former un minimum, en fait, on n'y comprend rien. Et un journaliste qui ne comprend pas un sujet, il ne sait pas l'expliquer clairement aux gens. Donc pour moi, c'est vraiment la base. Et une fois qu'on a bien compris un sujet, c'est hyper difficile. C'est tout notre métier, en fait, d'être capable d'expliquer simplement, de faire beaucoup de pédagogie pour expliquer c'est quoi les gaz à effet de serre, c'est quoi le CO2, pourquoi est-ce qu'on a des incendies, on a eu des incendies cet été. C'est pas juste parce qu'il fait chaud, c'est aussi parce qu'on a des forêts qui sont très artificielles aujourd'hui, qui sont en fait des plantations d'arbres. Et quand vous avez que des arbres qui sont en rangée, dès que vous jetez une allumette, le truc crame à fond, quoi. Et donc, il faut être capable de mieux comprendre les sujets, savoir les expliquer, et aussi peut-être parfois se rapporter un peu au quotidien des gens et de leur montrer que le climat, c'est pas juste les ours polaires et les glaces qui fondent. C'est très concrètement, cet été en France, est-ce qu'on va avoir de l'eau pour continuer de produire l'agriculture? comment on fait pour pas crever de chaud dans son appartement, comment on fait pour continuer de se chauffer et de se loger sans utiliser des énergies fossiles qui aggravent la crise climatique. C'est voilà, un milliard de questions que les gens se posent et auxquelles nous, journalistes, on doit être capables de répondre.
J'ai l'impression que ça va quand même beaucoup mieux depuis la rentrée de septembre, notamment dans la presse locale. Alors c'est pas toujours le cas, il y a des journaux qui ont titré, alors le Populaire du Centre avait fait sa une sur la canicule heureuse, puisque oui, les marchands de glace ont vendu beaucoup plus de glace de la même manière que les vendeurs de piscines. On a un terme qui est très négatif, canicule, il y a plus de 10 000 personnes qui sont mortes cet été de la chaleur, et on le sait. Et heureuse, c'est-à-dire, bah, en fait, voilà, il a fait chaud, c'est cool, il y a des raisons de se réjouir. Donc quand on a des termes comme ça, c'est comme des records de douceur qu'on a beaucoup entendu. Voilà, il fait 20 degrés en décembre, on dit pas que c'est un record de chaleur, on n'explique pas que c'est anormal, on dit un record de douceur. Et donc des gens se disent finalement, bah, record c'est positif, douceur c'est positif, donc qu'est-ce qui reste finalement dans l'esprit du public? Bah, l'idée que c'était sympa à Noël, on avait une petite laine et c'est tout, quoi. Ça renseigne pas du tout sur la gravité de la crise, et c'est le même problème avec les canicules heureuses, quoi. C'est des termes qui déréalisent, en fait, qui mettent à distance, et comme tout le monde, quand on a un terme positif et un terme négatif, on a tendance à laisser de côté le terme négatif et se concentrer sur le positif. Et donc, finalement, c'est une très mauvaise manière de parler de ces sujets-là, même si, de fait, il y a des gens qui ont gagné plus d'argent cet été avec la canicule.
Nous sommes toujours avec Lou Esparguillère, rédacteur en chef du Média Vert, et en présence d'Anne-Henri Castelboux et Samuel Duhamel, journaliste de la région, et Isabelle Matikowski, directrice générale adjointe de l'agence de l'eau Artois Picardie. C'est indéniable, les médias ont de l'influence, mais en outils également sur le sujet de l'environnement, peuvent-ils encore faire changer les choses ou est-ce déjà trop tard ?
Alors, les médias, ils ont une influence absolument monstrueuse. C'est eux qui façonnent la façon de penser d'une partie du public. D'ailleurs, le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc ils sont des centaines de chercheurs qui lisent toutes les études scientifiques, qui tous les 6 ou 7 ans, en gros, font des rapports pour expliquer ce qu'on sait du climat et ce qui va nous arriver. Ils disent que les médias ont un rôle crucial dans la compréhension que le public a de ces sujets et dans sa capacité, sa volonté d'agir. En gros, les médias, c'est eux qui expliquent ce qui se passe et qui expliquent ce qu'on est capable de faire à l'échelle individuelle ou collective. Donc non, les médias, ils ont un rôle absolument fondamental là-dedans. Et de toute façon, il n'est jamais trop tard pour agir pour le climat. Il n'y a pas un moment où le climat, c'est OK et le climat, c'est foutu du jour au lendemain. En fait, chaque dixième de degré de réchauffement compte. Et en fait, toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'on arrive à ne pas émettre, c'est moins de destruction dans le futur, moins de gens qui vont mourir, en fait, tout simplement. Et donc, il faut agir au maximum et surtout pas se dire que c'est foutu et qu'il n'y a plus rien à faire.
Est-ce qu'on a besoin que les médias soient les seuls à réagir ?
Alors, on a besoin que absolument tout le monde agisse à absolument tous les niveaux. Et les médias, plus que d'autres, en fait, tu vois, on parle beaucoup des gestes individuels, il faut que les gens trient leurs déchets et tout. Très très bien, il faut continuer à trier les déchets, absolument, je ne dis pas le contraire. Mais en fait, le geste individuel d'un journaliste qui va choisir de mieux traiter les sujets à l'aune d'une urgence écologique, qui va faire des sujets sur l'économie et qui va être capable de dire que, bah voilà, en fait, vendre plus de voitures aujourd'hui, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le climat, c'est une bonne nouvelle pour l'économie, mais c'est très mauvaise pour le climat. Donc, comment est-ce qu'on fait pour en fait, transformer la manière dont on se déplace pour qu'on fasse juste pas moins de voitures et que juste les gens ne soient pas tous à la rue, mais qu'en fait, on fait moins de voitures, mais c'est parce qu'il y a plus de transports en commun, parce qu'il y a plus de vélos, parce qu'il y a plus de mobilité partagée. En fait, si les journalistes ne sont pas capables de raconter ça, le public n'est pas capable de comprendre ce qu'il peut faire. Et donc, le geste individuel d'un journaliste qui va améliorer son traitement de tous les sujets, notamment les sujets économie, c'est un geste qui a une portée monstrueuse, parce que un journaliste qui est de TF1 qui fait un bon sujet sur l'écologie, il y a des millions de personnes qui vont le voir et des millions de personnes qui vont eux-mêmes progresser dans leur compréhension des sujets. Et quelqu'un qui trie juste ses déchets, c'est très bien, mais c'est juste trier ses déchets, quoi.
Aujourd'hui, on sait que les défis sont importants. On est quand même dans une région où il faut agir, il faut vite agir. Et donc aujourd'hui, on a besoin justement de vous tous pour sensibiliser le grand public. Alors les jeunes, bien sûr, mais le grand public à ces enjeux de l'eau. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas le cas dans la majorité des situations. Le sujet des déchets ou le sujet de la pollution de l'air, c'est venu assez rapidement. Maintenant, il y a une sensibilité dans le grand public sur le sujet de la pollution de l'air. Et c'est venu assez rapidement. Sur le sujet l'eau, c'est pas le cas aujourd'hui. Vous ouvrez votre robinet, vous avez l'eau, il n'y a pas de sujet. Et vous trouvez normal d'avoir de l'eau 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. C'est le fait de ne pas en avoir qui serait considéré un peu comme scandaleux. On a besoin de vous pour justement expliquer pourquoi en fait cette ressource qui est si importante, si chère à nos yeux de tous, pourquoi cette ressource elle doit être préservée, comment elle fonctionne, et je rejoins les sujets de pédagogie. Donc, le constat, comment ça fonctionne, où on en est aujourd'hui, quelles sont les situations, mais aussi, voilà, d'avoir, au-delà, je vais dire, de ce constat, d'avoir les bons exemples. Il faut occuper le champ médiatique par rapport à ça, là, sur des sujets comme ça, mais aussi de façon transversale. Vous en parliez dans toutes les activités.
Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de faire le buzz, comme de jeter de la soupe, par exemple, sur les tableaux, pour qu'on prenne conscience de ce qui se passe?
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de médias qui, pendant très longtemps, n'ont pas parlé de sujets liés à l'écologie, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, parce que ce n'était pas assez vendeur. Et du coup, bah, les militants pour le climat, ils en ont marre, en fait, qu'on ne parle pas de leur sujet. Du coup, voilà, il y a beaucoup de militants pour le climat, ils ont lu les rapports du GIEC. Ils disent on va droit dans le mur, c'est pas notre avis de militant, c'est ce que dit la science. Et on n'a pas l'oreille des dirigeants politiques, on n'a pas l'oreille des médias, donc comment on fait pour leur parler? Et bah ça a extrêmement bien marché, ils ont jeté de la soupe. Alors, encore une fois, ils n'ont pas détruit un tableau, hein. Ils ont jeté de la soupe sur une vitre qui protégeait un tableau. Je crois que le cadre a été un peu abîmé sur le Van Gogh, mais en fait c'est pas du tout, le tableau n'est pas en danger quoi. Donc déjà, il y a eu tout un récit médiatique où on a laissé croire que des gens saccageaient des Van Gogh, alors que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et il se trouve que ça a tellement bien marché qu'en fait, tous les médias ont parlé de leur action. Et donc tous les médias, à un moment, étaient obligés de parler de ces collectifs militants sur l'écologie. Et donc, certains médias, tous l'ont pas fait, se sont dit « Ah tiens, mais ce collectif s'appelle Dernière Rénovation. Pourquoi ça s'appelle Dernière Rénovation ?» Ah ok, parce qu'en fait, la rénovation thermique des logements, c'est un chantier qu'il faut absolument qu'on entreprenne en France pour que les gens réduisent leurs factures de gaz d'électricité, qui vivent mieux dans leur logement et qu'on émette moins de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la rénovation thermique des logements, c'est un des meilleurs trucs qu'on puisse faire pour le climat, mais aussi pour la justice sociale. Et ça, c'est pas juste les individus qui vont faire ça, c'est les individus avec l'aide des entreprises et avec l'aide de l'État. Voilà. Et donc, bah, finalement, je pense que d'une certaine manière, ils ont eu un peu raison de jeter de la soupe sur une vitre qui protégeait un tableau.
Depuis les années début 2020, même fin des années 2010, il y a des nouveaux collectifs de journalistes, plutôt des collectifs internationaux, qui travaillent ensemble et sur, qui font plus de l'investigation. Et ça, je pense que c'est une vraie nouvelle manière de travailler qui peut avoir peut-être plus d'impact encore pour dénoncer tous les travers écologiques.
La question que je pose, c'est par rapport à l'engagement. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une question de sensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, c'est que plus tu es sensibilisé, plus l'urgence de l'action est importante, en fait. On en revient à cette histoire de pédagogie, et on en revient aussi quelque part à cette notion qu'on peut avoir tendance à perdre de vue, mais qui est très importante dans un pays comme le nôtre, c'est le pluralisme. Donc, entre guillemets, de là où je suis, heureusement, entre guillemets, qu'il y a des médias comme Vert ou Reporter ou beaucoup d'autres, ou ce que fait Anne avec son format qui est assez long quand même, 12 minutes, c'est assez rare, même en format radio, pour rattraper le retard que nous, entre guillemets, masse-médias, on accumule sur ces questions-là. Mais il n'empêche, au sein de notre rédaction, l'idée, c'est de réussir à sensibiliser et les collègues et surtout les rédacteurs en chef, et même au-dessus des rédacteurs en chef, pour de plus en plus pouvoir mettre en avant ces sujets-là. Je ne sais pas si c'est un engagement, pour moi, c'est plus une question de sensibilité, en fait.
C'est nous les As, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
Comment rendre l'écologie sexy dans les médias?
Vaste sujet, effectivement. Pour beaucoup de gens, l'écologie, c'est un peu un truc des punks à chiens et ils ne se projettent pas trop dans ce truc-là. Un des enjeux pour les médias, c'est d'être capable de rendre, de faire advenir de nouveaux récits d'un futur désirable, mais qui est compatible avec la lutte contre le changement climatique. Et en fait, le mythe du gros SUV, aujourd'hui, la mode des SUV, donc c'est énorme, c'est faux 4x4 énorme, c'est un des principaux problèmes pour la crise climatique. Le fait que tout le monde, aujourd'hui, la moitié des véhicules vendus en France soient des SUV, c'est les voitures qui sont plus grosses, en fait, qui émettent plus de gaz à effet de serre, c'est un grave problème. Or, dans beaucoup de médias, dans la publicité, etc., le SUV, c'est vendu comme le Nec Ultra, c'est le truc cool, on est bien dans son SUV, c'est un gros véhicule, on est un peu les rois de la route, etc. Et le rôle des médias, c'est d'être capable de présenter d'autres récits qui sont plus cohérents avec l'urgence climatique, et donc de rendre la sobriété désirable. Donc le rôle des médias est indispensable là-dedans, quoi.
On a bien compris que c'était important de parler de l'écologie dans les médias. On parlait aussi tout à l'heure de greenwashing. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite pour des médias qui mettent en une des sujets sur l'écologie, mais qui derrière ne font pas des efforts ou ne n'opèrent pas de vrais changements dans leur fonctionnement interne?
Après, on a tous nos contradictions. Alors moi, je suis journaliste sur l'écologie, donc je suis pas non plus Greta Thunberg, donc je m'astreins pas à la même pureté militante que certains. Mais aujourd'hui, il y a des journalistes qui écrivent des super papiers sur le climat. Ils ont pris l'avion une fois dans l'année pour aller couvrir la conférence mondiale sur le climat. Est-ce que c'est pas finalement un bon usage de l'avion que de s'en servir juste pour parler de climat, tu vois, versus juste prendre l'avion pour passer un week-end à Ibiza? Donc voilà, on est tous pétris de contradictions. Il y a des médias qui ont basé leur modèle économique sur la publicité, et notamment la publicité parfois d'entreprises aériennes ou de vendeurs de voitures. Typiquement Le Monde, le journal Le Monde, fait un travail extraordinaire sur l'écologie, mais ils reçoivent encore de l'argent d'entreprises qui sont extrêmement polluantes. Donc en fait, la question c'est à quoi sert cet argent? Si l'argent il sert à mieux parler d'écologie, finalement c'est intéressant. Nous à Vert, on a un modèle économique qui est extrêmement, j'aime pas ce terme-là, mais un peu pur entre guillemets. C'est-à-dire que nous on est financé quasiment à 100% par les dons de nos lecteurs. Et du coup ça fait que bah, en fait, on a une parole qui est extrêmement libre sur les entreprises, sur les gouvernements. Et donc en fait nous, tu liras jamais de greenwashing dans Vert. Parce qu'on ne doit rien à aucune entreprise. Et pour nous, c'était extrêmement important d'avoir un modèle économique qui n'est pas dépendant de ces entreprises-là, et donc qui est effectivement cohérent entre ce qu'on raconte et comment on fabrique, comment on vit la rédaction, quoi.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques, des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert, mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire.
Nous étions en interview avec Lou Esparguillère, rédacteur en chef du média Vert, pendant la rencontre du Club de la Presse sur le traitement des enjeux environnementaux dans les médias. Cette rencontre s'est également faite en présence d'Anne-Henri Castelbou, journaliste à Radio RCF et correspondante du JNE, journaliste écrivain pour la nature et l'écologie, Samuel Duhamel, journaliste chef de bureau M6 à Lille, et Isabelle Matikowski, directrice générale adjointe de l'agence de l'eau Artois Picardie. Si vous souhaitez parcourir les articles du média Vert, direction le site internet vert.eco. Ils sont également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et si vous souhaitez connaître les prochains rendez-vous du Club de la Presse, direction clubdelapressehtf.fr.
On veut du green, 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 green,